le Centre africain d'études supérieures en gestion, le CESAG, ou l'émergence de talents au service de l'Afrique.
Milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. En cette journée mondiale des réfugiés, reportage en Algérie. 40 millions d'habitants et aujourd'hui près de 100 000 migrants subsahariens selon les associations. Installés surtout dans les villes du Sahara, Taman Rasset, Djanet, Adrar, Ouargla, Béchar, ils seraient aussi 4 000 à Oran, 3 000 à Alger. Depuis 2011, les crises sécuritaires en Tunisie, en Libye, au Mali ont transformé la route des migrations africaines vers l'Europe. L'Algérie, pays de transit, est devenue la première destination de séjour des migrants sur la route de l'Europe. Ils arrivent du Nigeria, du Libéria, du Cameroun, du Congo-Kinshasa, de la Guinée-Conakry ou encore de la Côte d'Ivoire pour un séjour de 3 à 4 ans en moyenne. Mais plus le temps passe, plus l'attente se prolonge, au fur et à mesure que les routes vers l'Europe se compliquent. Pour vivre ou survivre sur place, ils dépensent en moyenne 110 dollars par mois en logement, dans des bidonvilles, des garages, des sous-sols ou des maisons en chantier. À cela s'ajoutent 25 dollars pour les transports, 38 dollars par mois en téléphone et Internet. Chaque année, à Oran, 1 million de dollars est versé par des migrants à des propriétaires algériens. Et si les migrants restaient en Algérie ? Mais avec quelle place au juste ? Et quelles conséquences aussi pour cette société de l'inquiétude et du pessimisme ambiant ? Et qui n'a cessé d'ailleurs depuis les indépendances de regarder elle-même par la fenêtre. Leïla Berato, correspondante pour RFI, a enquêté dans plusieurs villes du pays à la rencontre de Fabrice, de Doudou, d'Armel et de tant d'autres, la plupart d'entre eux arrivés sans visa par la frontière avec le Niger, dans le seul couloir qui relie l'Afrique de l'Ouest à la Méditerranée.
Je suis Fabrice Soso, Camerounais. Ça fait 16 ans que je suis en Algérie. J'ai 45 ans et je suis marié et père de deux enfants. J'ai une fille de 8 ans et un petit garçon de 4 ans.
Voilà, c'est là-bas, ça fait longtemps.
Vite là-bas, là, on ne chauffe pas beaucoup.
La Josiane.
Alors là, on vient de sortir de la petite pièce.
Ouais.
C'est le premier étage donc, de la maison.
Premier étage de la maison, ouais.
Et au-dessus de nos têtes.
C'est du vide. C'est le ciel.
Donc il n'y a pas de toit.
Pas de toit. Ouais, pas de toi.
Et cette maison, donc, elle n'est pas terminée, c'est ça ? C'est ce qu'on appelle une carcasse.
C'est une carcasse. C'est une carcasse de villa, elle n'est pas terminée. Parce que nous n'avons pas assez d'argent. Et ici, au moins, on nous a acceptés. Parce que parfois, même avec son argent, on ne nous accepte pas. Je vous ai parlé de cette stigmatisation.
Comme ça, en cas d'un problème.
Alors ici, on est dans une grande pièce, hein, plutôt 10 mètres sur 10 mètres.
Mmh.
Qui est-ce qui vit ici ?
Ici, c'est où moi je vis, avec ma femme, mes enfants et le neveu à ma femme.
Et alors la pièce est divisée en deux, par un grand rideau violet. Pourquoi ?
Parce qu'il faut faire une différence entre le côté pour se coucher et le côté pour s'asseoir.
Il y a plusieurs personnes qui sont là déjà.
C'est pour plusieurs personnes, c'est pour des portes qui passent, c'est un lieu où on peut s'asseoir ensemble, on parle, on discute, on parle du bled, on parle de nos pays respectifs parce que nous ne sommes pas tous de la même nationalité. On parle d'ici, on parle du quotidien parce que nous n'avons pas la chance de s'asseoir au café. Au café, on nous évite alors. Avant là, il n'y avait pas de mur à cet endroit. Ça servait de séparation entre cette pièce et l'autre pièce. Bon, mais maintenant, il y a un mur derrière et j'ai laissé ça comme ça. J'ai laissé le tableau. Et les enfants l'ont utilisé pour s'amuser. Et ils n'ont pas la chance de s'amuser tout le temps dehors. Ils s'amusent là. Ils s'amusent là.
Moi, je sens que le parce que c'est bien plus vieux qu'il y a le feu là-bas.
Allez, viens ici, viens chercher.
Moi, c'est Armel. Je viens du Cameroun et je suis un migrant en Algérie. Voilà, ça fait presque 11 ans que je suis au Maghreb, mais ça fait 8 ans que je vis en Algérie. Et la situation n'est pas favorable comme on le pensait, mais sinon, on tient le coup. Voilà. Je me disais, à l'étranger, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que j'ai vu des frères partir et revenir avec un bon résultat. Voilà. Et c'est pas parce que je n'avais pas mangé chez moi ou je n'avais... Non. Moi, mon papa, il a conçu plus de 3-4 maisons. Mes grands, tout le monde est au pays parce qu'eux, ils se sentent à l'aise au pays. Mais moi, je voulais sortir parce que j'essaie de regarder plus loin. Si je suis en Algérie, c'est parce que je veux du travail. Ouais. Quand tu arrives, non, tu es migrant, tu n'as pas de papier, tu n'as pas de place ici. Et il y a certains Africains qui sont là parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils se retrouvent en train de faire de l'escroquerie. On est là, on n'a pas de travail, on n'a rien à faire. Comment on va faire pour vivre ? On le fait parce qu'on n'a pas le choix.
Rester en Algérie,
oui.
C'est compliqué.
C'est compliqué.
Mais alors, pourquoi on reste ?
Pourquoi on reste 70% ou 80% des Africains subsahariens qui sont ici, impossible de retourner chez eux. Ah ouais. Où il va aller habiter dès son retour ? Il ne veut pas entrer dans une maison familiale après avoir passé 5 ans, 6 ans dehors. Tes frères et tes soeurs, ils ont peut-être dû accoucher des enfants. Il y a une autre population à la maison. Tu ne veux pas rentrer après 7 ans dans l'aventure pour aller vivre dans la chambre que ton papa il a construite. C'est inacceptable. On est là, on est bloqué. On veut avancer. Bon, comment on va avancer ? Il y a deux chemins. Soit tu vas prendre l'eau, soit tu es un ami, un connaissant en Europe qui peut te faire des documents, il va venir te chercher. Mais tout ça, il faut des moyens. Et le moins risqué, c'est d'aller vivre à la frontière, au côté du Maroc. Moi, j'ai fait là-bas deux fois. Franchement, je ne peux pas insulter les frères qui vivent là-bas parce que moi-même, j'ai vécu, mais c'est inhumain. Voilà. C'est inhumain de vivre dans une forêt avec l'espoir un jour de grimper sur une barrière pour entrer en Europe. Il faut au moins 500 euros pour aller sauter la barrière. Il faut au moins 1000 euros pour prendre le bateau. Il faut au moins 3500 euros pour prendre l'avion. La famille ne peut pas t'envoyer l'argent. Tout cet argent-là, où tu vas le prendre ? Si on est là maintenant, c'est parce qu'on a toujours espoir que demain, ça peut changer. Cet espoir, ça ne peut jamais mourir. Même ce soir, avant de dormir, quelque chose peut changer pour lui. C'est à cause de ça qu'on est là.
Je m'appelle Mabi Njoli Doudou. Je suis un ingénieur en commerce international et formation. Je suis de la RDC, la République démocratique du Congo. Je suis né en 83. Mais je suis orphelin de père et de mère. À Kinshasa, j'avais eu mon bac. J'étais à l'université. C'était difficile pour moi. C'était pratiquement impossible de payer mes frais à l'université. C'est la raison pour laquelle j'avais pris la décision de quitter le pays. Et j'ai traversé de l'autre côté du Brazzaville pour aller au nord, à Ouesso. Là, j'étais journaliste à la radio Béni. Mais comme il n'y avait pas une bonne rémunération, je quittais le pays, au Cameroun aussi. Je n'ai pas voulu travailler dans le chantier. C'est la raison pour laquelle j'avais traversé pour aller au Nigeria. Bon, je ne pensais pas venir en Algérie. À l'époque, je pensais aller en Europe, en Occident, comme tout autre Congolais. Mais j'avais ces soucis-là de continuer mes études. Mais il n'y avait pas un travail qui pouvait me permettre de payer mes études.
Quand vous arrivez en Algérie, est-ce que vous avez de l'argent ? Est-ce que vous avez des contacts ?
Quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à travailler dans des chantiers. J'ai travaillé à Cité Sahraoui.
Donc la Cité Sahraoui, c'est un grand ensemble de bâtiments dans la ville d'Alger.
Voilà, j'ai travaillé là-bas comme étant manœuvre. Ça m'a permis d'avoir un peu l'argent. Je fais l'inscription libre.
L'inscription libre à l'université.
À l'université.
Donc.
Je fais mes études à l'ESMAD. Je fais ma formation en commerce international. Je fais mon stage à Coca-Cola. Mais je n'ai pas eu la chance de voir le permis de travail. Et après mes études, je ne pouvais plus renouveler pour avoir la carte de séjour.
Vous êtes donc en situation irrégulière ?
Oui. Rester en Algérie, c'est l'échec pour moi.
Alors là, aujourd'hui, vous avez une petite fille.
Oui, elle va à l'école déjà, normalement.
Elle ne va pas à l'école normalement. Elle va dans une école privée que du coup, vous devez payer.
Oui, je paye normalement. C'est normal, c'est logique qu'on paye les études pour les enfants.
Oui, mais en Algérie, l'école est gratuite.
Oui, ça c'est pour des Algériens. C'est gratuit, mais moi je n'ai pas les droits d'inscrire mon enfant dans une école publique, déjà. Même si on nous donnait cette opportunité-là, Bon, ce n'est pas le racisme, mais je préfère que ma fille aille dans des écoles privées. Elle va apprendre le français, l'anglais. Si elle retournait au Congo, elle peut travailler facilement. Même si on avait cette opportunité-là, si elle faisait des études en arabe. Ma fille continuera toujours à étudier dans des écoles privées.
Rester en Algérie, un échec comme disent les migrants, mais toujours mieux que la route vers l'Italie via la Libye. Armel et d'autres ont refusé d'emprunter ce chemin de souffrance. Entre-temps, des enfants sont nés, ont grandi. Selon une enquête menée par le ministère algérien de la Solidarité et les associations, les trois quarts de ces enfants ont moins de 5 ans. 32% vont à l'école, en grande majorité dans des écoles privées qui pratiquent le double programme, celui de l'école algérienne et celui de l'éducation nationale française, ce qui permet aux enfants camerounais, congolais de ne pas être complètement perdus. Et surtout, ces écoles acceptent de fermer les yeux sur les problèmes de papier des enfants, tant que leurs parents, évidemment, payent les frais de scolarité. Car l'Algérie ne pratique pas le droit du sol. Même si l'enfant d'un migrant est né dans un hôpital algérien, il est de facto en situation irrégulière. Grâce au travail de sensibilisation des associations, les centres de santé prennent néanmoins en charge ces enfants de migrants sans problème. Mais la société civile algérienne, fragile, commence à peine à se structurer pour défendre les droits des migrants. Les acteurs associatifs sont jeunes et connaissent eux-mêmes assez peu les migrants. Imen Benchaouch est une jeune Algérienne de 30 ans. Elle travaille pour Médecins du Monde à Alger. Elle est chargée de plaidoyer au sein de la mission Algérie et elle est donc chargée de sensibiliser les autorités algériennes aux difficultés des migrants, notamment pour leur place à l'école.
On s'est rendu compte avec les activités de Médecins du Monde sur le terrain que beaucoup d'enfants étaient âgés de 6 ans et n'allaient pas à l'école. Ou du moins, quand les parents n'avaient pas les moyens de les envoyer à l'école privée, puisque certains avaient la possibilité, dans la grande majorité, n'allaient pas du tout à l'école. On a fait un travail avec le ministère de l'Éducation pour permettre à ces enfants d'aller à l'école publique. Et le ministère de l'Éducation nous a octroyé l'autorisation d'inscrire ces enfants très rapidement. Et nous avons pu, à la rentrée de septembre 2015, inscrire 25 enfants en tout à l'école publique algérienne. Des enfants donc, qui sont pour certains nés en Algérie, donc qui ont un extrait de naissance, mais pour la majorité d'entre eux qui n'ont aucun document d'identité.
Quand vous allez voir le ministère de l'Éducation pour sensibiliser à cette question-là, quelle est la vision du ministère de l'Éducation en ce qui concerne la migration? Est-ce qu'ils ont une idée de ce qui se passe? Est-ce qu'ils découvrent tout? Est-ce qu'ils sont au courant mais qu'ils essayaient de mettre le dossier de côté? Comment ils réagissent quand vous leur parlez de cette question-là?
Alors pour eux, c'était très clair dans le sens où tout enfant présent en Algérie qui a 6 ans doit aller à l'école, quelle que soit sa nationalité, son pays d'origine. Pour eux, ils étaient très clairs sur cette question-là. Par contre, le problème qui se pose, c'est le manque d'informations des deux côtés. C'est-à-dire que le ministère de l'Éducation ne sait pas où se trouvent ses enfants, combien sont-ils, comment faut les inscrire, et les parents de leur côté ne savent pas s'il est possible déjà de les inscrire à l'école publique et ne savent pas comment faire pour inscrire leurs enfants. Au ministère, j'étais un peu sceptique. Et quand, dès le premier rendez-vous avec le directeur de l'éducation au niveau du ministère, où il a été super ouvert en disant « il n'y a pas de souci, vous nous faites une demande avec le nom des enfants, leur âge et l'école où ils souhaitent être scolarisés, et moi je vous fais l'autorisation parce que c'est normal qu'ils soient scolarisés », j'étais en même temps très heureuse et en même temps, j'avoue, très surprise en fait. Malheureusement, ce n'est pas fini, parce qu'une fois arrivé à l'école, il faut aussi informer les directeurs d'école de cette procédure. Une fois que l'enfant est scolarisé, après, on a eu un souci d'intégration avec les enfants. Et que les enfants algériens qui étaient là comprennent aussi, parce que c'était pour eux quelque chose de nouveau, des migrants subsahariens qui arrivent à l'école, c'était un peu particulier, et que du coup, il faut aussi informer les deux sur la présence de ces enfants.
Pas de doute, ils sont bien là, visibles, dans les quartiers relégués et les banlieues des villes. Visibles, aussi bien sur les chantiers des entreprises, du bâtiment, dans l'agriculture, et visibles à l'école. La loi algérienne est très stricte en ce qui concerne le séjour des étrangers sur son territoire. En cas d'immigration illégale, le code pénal algérien prévoit 2 mois de prison ferme et l'équivalent de plusieurs centaines de dollars d'amende. C'est valable pour les Algériens qui tentent de prendre la mer en barque vers l'Italie ou l'Espagne, comme pour les migrants subsahariens. Mais ces derniers avaient une double peine après 2008 et une nouvelle loi sur l'immigration. Alger expulsait les migrants arrêtés sans titre de séjour à Tinzawatine, en plein désert, de l'autre côté de la frontière malienne. Depuis la crise de 2012, ces expulsions ont cessé. Les migrants utilisent de faux passeports, circulent de la Tunisie au Maroc par avion, sans que la douane ne les bloque. Les lieux de vie où les migrants sont de plus en plus nombreux sont surveillés par la gendarmerie, qui n'intervient en fait qu'en cas de trouble à l'ordre public. Abdelmoumen Khalil est secrétaire général de la Ligue de défense des droits de l'homme. À Alger, il accompagne certains migrants au tribunal, soit parce qu'ils ont été arrêtés, soit parce qu'ils déposent plainte. Des migrants sont par exemple régulièrement arrêtés, notamment dans les transports. Mais la justice limite les condamnations, les peines sont moins sévères et pas systématiques. Abdelmoumen Khalil.
C'est toute la problématique et l'ambiguïté de la position des autorités sur ce dossier. Effectivement, ils sont là, ils sont visibles, ils sont acteurs économiques, ce qui est important aussi à le souligner. Des enfants sont en train de naître en Algérie, donc ils ont une existence juridique en tant qu'être humain, mais les autorités refusent d'évoluer justement avec cette réalité.
Est-ce que pour autant l'État est dans la répression de la migration ?
Alors, il y a deux situations. Si on prend le cas des migrants qui viennent du Niger, là, effectivement, l'État est dans une répression ou dans une décision d'expulsion systématique de ses ressortissants. Mais quand on voit aussi les migrants d'autres nationalités, eh bien, on sent qu'on est dans une phase de tolérance, d'acceptation de ce fait migratoire. Ce n'est pas acté, ce n'est pas assumé. Du coup, ça reste fragile et ça peut changer du jour au lendemain.
Quand un migrant est arrêté et qu'il est jugé pour séjour irrégulier, qu'est-ce qui lui arrive ?
Ben, généralement, il est arrêté, donc il va en prison le temps de passer ce week-end devant le tribunal. Donc il fait 8 jours pratiquement de détention. Après, il est jugé. Est condamné à généralement à 2 mois de prison avec sursis, une amende et on lui donne aussi une invitation à quitter le territoire sous quinzaine. Bien entendu, il n'y a aucune, c'est-à-dire la police ne fait pas le suivi de cette décision dans la mesure où sous quinzaine la personne n'est pas expulsée. Parce qu'il y a une décision politique qui a arrêté, qui a stoppé à partir de 2012. 2013, donc ça coïncidait avec la crise malienne, donc il y a une décision politique qui a arrêté les expulsions à travers la frontière malienne, bien sûr.
Ça, c'est pour ceux qui sont arrêtés dans le cadre de séjour illégal. Mais il existe un certain nombre de migrants aujourd'hui qui portent plainte après des agressions, après des viols, je pense à plusieurs cas de femmes, notamment dans la wilaya d'Oran. Ces plaintes-là, est-ce qu'elles sont traitées par la justice ?
Concrètement, il n'y a aucune garantie formelle que la plainte soit enregistrée et qu'il n'y ait pas en parallèle une procédure d'expulsion ou une procédure de condamnation pour séjour irrégulier. Là est toute la difficulté.
Je pars aussi pour mon sort, j'ai décidé d'émigrer plus au nord, là où d'abord la liberté est vantée. Sans remords, je suis d'accord. Pour déserter ma contrée, mon décor est comme mort. La nuit s'y est installée. Mon décor est comme mort. La nuit s'y est installée.
L'immigré El Ghafla, suite du reportage de Leïla Berato, juste après le flash. 7 milliards de voisins, nous revenons dans 3 minutes. Restez avec nous.
Moi je veux lever les yeux et regarder où je vais, désireux de vivre mieux. Je ne voulais qu'exister. Moi je veux lever les yeux et regarder où je vais, désireux de vivre mieux. Je ne voulais qu'exister, désireux de vivre mieux. Je ne voulais qu'exister, désireux de vivre mieux. Je ne voulais qu'exister, désireux de vivre mieux. Je ne voulais qu'exister.
Milliards de voisins. on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez. 7 milliards de voisins, quelle place pour les migrants dans la société algérienne? Suite du reportage de Leïla Berato, correspondante pour RFI en Algérie. Sur la route de l'Europe, l'Algérie n'est plus seulement un pays de transit, c'est aussi un pays de l'attente, parfois éternel. S'arrêter quelques années pour gagner un peu d'argent afin de payer la suite du voyage. Mais l'attente se mue en installation parfois, au fil des années et au fil des naissances d'enfants. En Algérie, le niveau de vie est moins élevé qu'au Maroc ou en Tunisie. La baguette de pain, le sucre, l'huile sont des produits subventionnés par l'État. Le ticket de bus, l'essence, tous les produits de consommation courante coûtent en fait bien moins cher que dans les pays voisins. Temporiser et économiser, mais surtout, surtout, se dire que l'Algérie est un pays où les migrants trouvent du travail. Avec plus de 2 millions de kilomètres carrés de territoire, plus de 40 millions d'habitants et plus d'un million de naissances par an, l'Algérie a besoin de développer ses infrastructures. Le président Abdelaziz Bouteflika a fait deux promesses phares au fil de ses quatre mandats. Promesse sur le logement pour tous et puis la promesse du développement d'infrastructures dans tout le pays, y compris au milieu du désert. C'est aussi un pays où l'argent circule de façon informelle. Peu d'Algériens conservent leurs économies dans des banques. Les migrants ne peuvent pas travailler légalement, certes, mais ça ne pose pas de problème au monde économique. Pas besoin de factures, pas besoin de tickets de caisse, pas besoin de fiches de paye. L'économie algérienne est structurellement informelle, non déclarée. Les autorités ont bien tenté de pousser les Algériens à mettre leur argent dans les banques l'année dernière, en promettant de ne pas poser de questions sur la provenance. Peine perdue, mais surtout véritable aubaine pour les migrants qui peuvent faire du commerce librement. Sabine, la trentaine, est arrivée du Cameroun il y a 4 ans avec son mari. Objectif, gagner de l'argent en vendant des produits venus d'Afrique de l'Ouest. Elle stocke les produits dans son petit appartement du centre-ville d'Oran. Elle va à la rencontre de ses clients migrants à l'église, dans les maquis, dans les logements informels. Le marché est prometteur, plus de 4000 migrants vivent à Oran, la deuxième ville du pays qui ne cesse de se développer. Contrairement à la plupart des migrants, Sabine vit seule, avec son mari, dans un relatif confort.
Je suis en Algérie, ça fait 4 ans. Je m'appelle Sabine. Je vends la nourriture africaine, les vêtements africains. C'est pas là où moi je m'en sors. Là, c'est des écrevisses. Oui. C'est les épinards. Ça, c'est couscous manioc.
Et alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce que tout ça est arrivé jusque dans votre cuisine à Oran?
Je pars en Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria, pour les acheter et venir vendre aux Camerounais, aux Maliens, aux Nigériens. Parce qu'ici, on n'en trouve pas.
Vous, Sabine, vous vous êtes mariée cet été?
Oui.
Et vous êtes donc rentrée au Cameroun pour vous marier?
Oui, on s'est mariés légalement et nous sommes revenus ensemble. Lui et moi, on se bat ensemble. Je fais mon métier, lui fait son métier. Il vend les vêtements aussi africains. Il fait dans la couture, les vestes.
Et ça, par exemple, une robe comme ça, ça vous permet à vous de gagner combien quand vous avez enlevé tous les frais?
On peut gagner 10 euros.
On est dans votre maison, là, il y a quand même... Il y a deux pièces, il y a un salon, une chambre, une cuisine. C'est pas le même standard que ce qu'on peut voir dans les quartiers des Amandiers. Le quartier des Amandiers qui est un bidonville où les gens vivent entre quatre murs de béton avec une plaque de tôle. Ou à Ain El Beida, où les gens vivent dans des garages.
Et on s'en sort bien. Mon mari et moi, on joint les deux bouts. Nous faisons des efforts pour ne manquer de rien. Nos enfants ne manquent de rien.
Vos enfants, ils sont ici ou ils sont au Cameroun?
Ils sont au Cameroun.
Et vous, dans les années qui viennent, vous vous projetez comment?
D'autres sont là pour aller en Europe. Mais moi, je ne suis pas là pour aller en Europe. Je suis là pour gagner le peu que je peux avoir et pouvoir réaliser mon projet au pays.
Si les femmes migrantes, comme Sabine, travaillent principalement au sein des communautés de migrants, les hommes, eux, sont en contact avec le monde économique algérien. La plupart des migrants travaillent sur des chantiers de construction, comme manœuvres, peintres ou maçons, dans une Algérie en développement, dans les périphéries des villes du Nord, mais aussi dans les villes du Sud, où les constructions se multiplient. Le taux de chômage, de 11% en moyenne, a poussé les autorités à mettre en œuvre une politique de préférence nationale, où il est officiellement impossible d'employer légalement un travailleur étranger. Sauf que les métiers du bâtiment, les Algériens n'en veulent pas. Alors partout dans le pays, sur les chantiers des villas ou des logements sociaux, eh bien on emploie des migrants africains subsahariens. Leur salaire journalier est d'ailleurs plus élevé que celui des Algériens. 1500 dinars par jour, soit environ 12 euros. Mais les employeurs ne payent pas de charges sociales. À Oran, les migrants qui cherchent du travail dans le bâtiment se retrouvent chaque matin en pleine ville, bien visible, autour d'un immense rond-point dans le quartier de Canastel. C'est là que les entrepreneurs algériens viennent chercher de la main-d'œuvre. Et c'est ici qu'Aurélien a rencontré son patron. Ce Camerounais de 27 ans travaille comme maçon pour Wahid, un petit entrepreneur d'Oran. Aurélien a fait des études pour pouvoir être capitaine dans la marine marchande. Il n'est jamais parvenu à trouver de travail au Cameroun. Depuis qu'il est en Algérie, il ne parle pas beaucoup, il reste discret sur sa vie personnelle. À son employeur, il affirme être malien et musulman, persuadé que cela facilitera les relations. Leïla Berato a rencontré Aurélien sur un chantier à El Aïoun, une petite ville côtière, en bordure d'Oran, coincée entre l'autoroute et le bord de mer, où les familles aisées se font construire des villas.
Vous êtes dans mon lieu de service, où je trouve mon pain quotidien.
Et là, à côté de toi, il y a un monsieur ?
Ah oui, lui, c'est Monsieur Wahid, c'est mon patron. Ça va faire 2 mois et demi que nous sommes ensemble.
Il me plaît, il est honnête. Quand tu le laisses seul, tu peux être en paix dans ta tête. Ne pas avoir de doute ni rien. Il travaille. Ici, tous les voisins sont contents de lui. Il est même venu manger à la maison. C'est quelqu'un de sérieux.
Mali, Cameroun, ils ont trop poids de main. Les maçons, les importateurs, ils ont le B13, ils ont le brique, ils ont le haka.
Beaucoup de ces migrants viennent du Mali, du Cameroun. Les maçons, les importateurs, ils leur donnent du travail. Quand quelqu'un vient nous voir, on lui donne du travail. La plupart des Algériens qui viennent nous voir, ils ne sont pas fiables. J'ai engagé beaucoup de personnes. En général, les ouvriers algériens travaillent bien pendant un mois ou deux. Et ensuite, ils changent de comportement. Ils veulent se mêler de tes affaires. Ils peuvent même te voler. Ce garçon-là, au contraire, il est droit. Il ne sait pas où aller et c'est ça qui le pousse à travailler. Les Maliens, comme lui, ils travaillent mieux.
Ici, on est en hauteur, on est au dernier étage d'une maison. Ouais. Donc, c'est à l'air libre.
Oui, à l'air libre.
Donc, tout le monde sait que vous êtes là.
Oui, tout le monde. Tout le monde.
Tous les gens du quartier savent qu'il y a un migrant qui travaille dans cette maison.
Bonjour. Je suis l'Africain le plus adoré du quartier.
Vous êtes sans papier, vous êtes sans titre de séjour, mais pourtant, tout le monde sait que vous êtes là et il n'y a pas de problème.
Non, il n'y a pas de problème, puisque il voit à moi un homme bien. Je ne dérange pas. Je ris avec tout le monde. Ici même, à La Youn, c'est le seul quartier où je vois une fille passe, tu peux rire avec elle, elle te salue. Par contre, en villa, non. Tu salues une fille sur le coup de poing.
Et vous, vous pensez que les gens comme les migrants,
oui,
les immigrés,
oui,
ils peuvent rester en Algérie ?
Ils peuvent. Il a son femme et il reste travailler, manger, travailler, comme nous.
Le bonheur de Mbahi Pkab Mri, il a fait un peu de temps.
Pour être en paix avec soi-même, il faut avoir un objectif et Dieu s'occupera du reste.
Même quand je marche, peut-être si un policier m'interpelle, quand je monte ma main, il me laisse passer. Quand je monte ma main, parce qu'il voit la main des travailleurs. Oui, parce qu'il y a des blagues là-bas, ils ont des pommes de main, des bébés. Mon papier, c'est ma main.
Même s'ils ont intégré le monde du travail informel, la discrimination et les violences contre les migrants sont courantes en Algérie. Elles sont liées à la couleur de peau, parfois à la religion. Les femmes sont régulièrement victimes d'agressions sexuelles. Mais au début de l'année, à Ouargla, puis à Béchar, deux grandes villes du sud de l'Algérie, en plein développement, où sont installés d'ailleurs de nombreux migrants, des violences ont éclaté. Des dizaines d'Algériens se sont attaqués à des lieux de vie de migrants. Dans les deux cas, le facteur déclencheur, c'est le récit d'une agression. Mais les migrants étaient surtout installés dans des locaux commerciaux vides. Ces locaux, on en trouve dans toutes les villes du pays. C'est une promesse du président Bouteflika qui voulait stimuler la création d'entreprises. Sauf que, face à la difficulté d'entreprendre, face à l'administration, au manque d'opportunités, eh bien ces locaux restent vides. La présence des migrants renvoie aussi aux Algériens leurs propres difficultés économiques et plus largement l'échec de l'Algérie tout entière, avec en première ligne sa jeunesse. Mimo et Walid en sont l'incarnation. Ils vivent dans le quartier de Bolorine, à l'ouest de Bab El Oued. Ils ont grandi ensemble, ici, dans ce quartier populaire historique d'Alger. Et le soir, eh bien, ils se retrouvent dans la rue, près du bord de mer. Tous les deux ont du travail, mais ils savent que leur situation est fragile. En Algérie, le taux de chômage de 11% en moyenne est trois fois plus élevé chez les jeunes de 16 à 24 ans. Et le travail, de toute façon, n'empêche pas la précarité. Au quotidien, ils croisent des migrants, bien sûr. Mais face à leur propre situation sociale, ils estiment que l'hospitalité doit avoir des limites.
Bonsoir. Monsieur Aktouf Mouad, surnommé Mimo. J'ai 30 ans. Je suis chargé de communication. Et je suis comédien.
Bonjour, je m'appelle Walid, j'ai 31 ans, je suis chauffeur de taxi et pas encore marié. Moi, je connais pas la vie des migrants. Eux, les Africains, comme on dit ici, je sais pas ce qu'ils font chez eux avec leurs sœurs. Toi, tu es algérienne, je sais à peu près comment ça se passe avec ta famille, avec ta mère. Tu vois ce que je veux dire? Mais eux, je sais pas comment ils vivent. Tu comprends?
Est-ce que vous pensez que leur vie, elle est très différente de la vôtre?
C'est comme un type que je connais, un Ivoirien. Par exemple, il boit de l'alcool à table et c'est normal. D'accord, ici en Algérie, il y a des gens qui boivent de l'alcool à table. Mais chez moi, dans ma façon de vivre, il n'y a pas d'alcool à table. Tu sors boire dehors ou alors tu ne bois pas, point. Ensuite, quand un Africain t'invite chez lui avec sa sœur, sa mère, sa nièce, sa cousine, tu peux avoir envie de discuter, de toutes les draguer ou pas.
C'est open bar. Voilà. Normal.
Être avec les femmes, c'est normal chez eux. Nous, on n'a pas ça. Par exemple, si on est invité chez un Africain, on y va avec lui. À un moment donné, il se lève. Là, je te parle de Baba Ngoudou, l'Ivoirien. C'est sa famille que je connais. À un moment donné, Baba Ngoudou, il a un truc à faire et il s'en va. Et toi, tu restes là, assis avec sa sœur et sa mère. Ça ne se fait pas en Algérie. Si celui qui t'invite se lève, tu te lèves aussi.
Je sors, tu sors, je rentre, tu rentres.
C'est des petites choses qui te donnent une idée sur la différence entre eux et nous. Alors imagine-toi que sur le reste, on n'en sait rien.
Et qu'est-ce que vous pensez du fait que ces gens vivent en Algérie et viennent et que les migrants subsahariens soient nombreux ici, dans votre pays?
S'ils ne créent pas de problème, ils peuvent vivre ici. Quelqu'un qui vient, il vit, il mange, il boit, il se marie, il n'y a pas de souci. Mais juste, il ne doit pas créer de problème.
Ils sont les bienvenus.
Mais il y a une chose quand même. Quand quelqu'un vient, pas de diplôme, rien, et je ne sais pas ce qu'il fait, mais il travaille et il gagne 70 000 dinars. Alors que moi, j'ai vécu toute ma vie en Algérie, je galère au travail, ça c'est un peu... ça passe pas.
Mais vous en connaissez beaucoup des gens comme ça qui gagnent beaucoup d'argent, plus que des Algériens?
J'en connais pas. Eux, ils supportent de vivre dans ces conditions difficiles parce que c'est temporaire. Dis-toi bien que pour la majorité d'entre eux, l'Algérie, ce n'est qu'une étape.
C'est un tremplin pour l'Europe.
Ils ne restent pas en Algérie, ils se font de l'argent, travaillent à gauche, à droite, ils font des sacrifices, ils partagent une pièce à quatre. Ensuite, ils partent en Italie, en Espagne, ils trafiquent. Pour eux, l'Algérie, ce n'est qu'un passage. Mais nous, on n'est pas de passage. L'Algérie, c'est mon pays. Je suis né ici, je vais mourir ici. Et même si je meurs ailleurs, je serai enterré dans mon pays. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas travailler pour 500 dinars comme eux et mourir à l'âge de 20 ans.
Est-ce qu'il faut donner aux migrants des papiers d'identité et le droit de travailler ?
L'État. Avec la chalade, 68% des jeunes.
Tu sais, dans ce pays, on est 68% de jeunes. C'est énorme. Je parle des moins de 35 ans. Et tu sais ce que l'on dit. Toi, là, tu discutes avec nous. Mais notre gouvernement, il ne s'occupe pas de ces jeunes, de son propre peuple.
Nous, on vit au noir. Moi, je vis au noir, dans mon propre pays. Je vis au noir. Même nous, déjà, les Algériens, chez nous, on est sans papier. Et toi, tu viens nous demander ce qu'il faut faire pour les sans papier.
Ce qu'il veut dire par « au noir », c'est qu'on n'a pas de droit. La différence entre eux et nous, au fond, c'est que moi j'ai une carte d'identité verte. C'est tout, c'est ça.
Dans les chantiers, les ouvriers sont désormais majoritairement des migrants. Dans la région de Ouargla, 800 km d'Alger, en plein Sahara, le patronat affirme que 90% des employés du BTP sont des subsahariens. Presque aucun n'est assuré en cas d'accident et ils peuvent être arrêtés par la police lors d'un contrôle de papier. À Ouargla, il y a bien un chômage plus important que la moyenne. Et en 2013, une manifestation avait réuni près de 5000 personnes pour demander à l'État de prendre des mesures pour l'emploi. Mais les entrepreneurs affirment que les chômeurs refusent de faire le travail de manœuvre et préfèrent travailler dans les compagnies pétrolières. Dans les années 60, alors que des Algériens migraient vers la France pour travailler, 70% d'entre eux, sans qualification, se dirigeaient vers les travaux pénibles dont les Français, eux aussi, ne voulaient plus. Aujourd'hui encore, l'Italie vient d'ouvrir 30 000 postes d'emploi saisonniers aux Algériens. Mais dans leur pays, les Algériens refusent ces travaux pénibles. Saïb Muzet est sociologue. Il travaille au CREAD, le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement à Alger. Spécialiste des migrations subsahariennes et de la fuite des cerveaux algériens vers l'Europe, il pointe évidemment les paradoxes de l'Algérie et ses impasses.
La migration, dans l'état actuel des choses, on en a besoin. Tôt ou tard, on ira probablement vers une sorte de régularisation qui ne dit pas encore son mot pour l'instant. Parce qu'il y a une sorte de tolérance. Le besoin en travailleurs, l'Algérie en aura toujours besoin. On en distribue. Il y a des travailleurs en situation régulière, des étrangers en situation régulière en Algérie. Donc il y aura peut-être, mais tout cela dépend d'un accord qui serait bilatéral. C'est autrement dit que le gouvernement, l'état d'origine de ces personnes arrive à obtenir un accord bilatéral avec l'Algérie pour l'exportation de la main-d'œuvre vers l'Algérie. Main-d'œuvre temporaire, bien entendu. Ces accords, même s'il y a accords bilatéraux qui peuvent être établis, il n'est pas interdit, sur des chantiers, sur des projets de construction, etc., il y aura toujours une partie qui vont rester, qui vont s'installer en Algérie. Si à 80% ils retournent, comme les Chinois, il y en a qui retournent, mais il y en a qui s'installent. Alors ils se convertissent, ils ne sont plus ouvriers, mais ils deviennent commerçants. Donc ils ouvrent des boutiques, ils font venir leur famille même. Et il y en a qui se marient, donc il y a des mariages mixtes. Alors les Nigériens, ça ne m'étonnerait pas que tôt ou tard, ces Nigériens vont finir par obtenir une sorte de régularisation avec un permis de travail en bonne et due forme, peut-être même une autorisation de séjour.
Est-ce que l'Algérie se dirige, comme l'a été la France à une certaine époque, vers l'intégration finalement de populations étrangères parce qu'on en a besoin pour le travail ?
L'Algérie a été une terre d'accueil, ce qu'il faut le savoir aussi. Bon, je suis l'exemple typique. L'exemple typique d'un subsaharien qui est bien installé en Algérie depuis 40 ans.
Vous êtes arrivé d'où ?
Je viens de l'île Maurice. en 76, ça fait presque 40 ans maintenant. Je suis là, bien intégré. Donc la population étrangère, on a une politique, mais qui ne dit pas son nom.
Difficile pour les autorités de dire aujourd'hui à la société algérienne « nous avons besoin de ces migrants ». À ces exaspérations économiques s'ajoute un vrai questionnement identitaire pour les Algériens, provoqué aussi par l'arrivée des migrants. Selma Khelif est psychologue et elle organise des groupes de parole pour les femmes migrantes dans les villes d'Alger et d'Oran.
Il y a une différence claire qui est la couleur de peau. Voilà. Première. Deuxième, la tenue vestimentaire. Parce qu'une Camerounaise qui mettrait le voile, je crois qu'elle serait beaucoup mieux accueillie, bien que je ne suis pas totalement convaincue, mais elle serait différemment accueillie, en tout cas dans son quartier. On la valoriserait plus en disant « oh, c'est bien, on a gagné une musulmane de plus ». Voilà. Alors qu'une Syrienne, c'est déjà gagné, entre guillemets, en tout cas c'est ce qu'on pense. Rien que d'ouvrir les yeux, on ne voit la différence. Alors qu'une Syrienne, sans qu'elle ait à parler, on ne voit pas la différence entre une Syrienne et une Algérienne. Mais par contre, une Camerounaise, si. Elle est visible. Elle est visible et elle met en difficulté les uns et les autres par rapport à nos propres difficultés à nous, c'est-à-dire comment gérer cette relation à l'autre, l'autre sexe, alors qu'on nous apprend depuis tout petit à rester à bonne distance les uns des autres, donc on ne se connaît pas. Et du coup, on est tout de suite effrayé par ce qui est trop visible de la différence des deux sexes. On les voit. On voit leur décolleté, on les voit circuler, bien vivre dans leur corps. Et ça, ça interpelle le différent nombre de complexes, en tout cas, que nous vivons ici.
Ça veut dire que, en fait, les migrantes, par leur présence, est-ce qu'elles renvoient aux hommes algériens la frustration, la difficulté d'aller vers les femmes? Et est-ce qu'elle renvoie aux femmes algériennes aussi cette difficulté de place dans l'espace public?
J'ai plutôt l'impression qu'elles nous mettent face à cette peur, cette espèce de fossé qu'on a bien creusé entre les femmes et les hommes, même si forcément ça ne peut pas être se généraliser. Je veux dire, il y a des régions où c'est un peu moins compliqué. Mais j'ai l'impression que dans certains quartiers, il y a un tel fossé. C'est comme s'il y avait un monde pour les femmes, un monde pour les hommes. Et que du coup, celle-là qui arrive entre ces deux mondes, eh ben elle, c'est comme si elle venait un peu titiller l'ordre dans lequel les uns et les autres se sont organisés pour s'accepter. Parce que même si ça n'est pas vivre correctement les uns avec les autres, dire aujourd'hui, il y a des messieurs qui sont capables de dire, encore des Algériens, capables de dire que s'ils agressent telle ou telle femme, c'est parce qu'elle n'a pas su se couvrir ou elle n'a pas eu le bon comportement. C'est quand même terrible. Du coup, oui, elles sont là pour un peu titiller cette incapacité de certains hommes à prendre leurs responsabilités, que nous ne sommes pas des bêtes. Voilà.
Comment est-ce que ces migrants ont un effet sur la société?
Nous sommes mis face à nos propres incohérences, à nos propres violences finalement, autant dans le système que dans nos relations. C'est-à-dire celui qui ne nous ressemble pas, celui qui est différent, nous allons l'agresser. Je suis persuadée que c'est grâce à ces femmes subsahariennes qui sortent, qui occupent les espaces publics dans des tenues différentes, tout simplement, que nous allons être amenés à réfléchir sérieusement à ce qui faisait en tout cas l'un de nos principes, qui était la capacité de vivre ensemble dans ce pays, sans forcément aller dans le détail de ce que porte l'un ou l'autre. Ça, c'est récent. Il y avait même de très belles photos dès des années 80, sur une même plage, une femme en bikini, une autre en djouba, en robe longue. Il n'y en a pas une pour regarder l'autre. Je veux dire, ça fait partie de l'Algérie. Et donc, il faut absolument, femmes subsahariennes, restez, je vous en prie. Voilà.
Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, je pose la question, parce que moi, j'ai été marquée par cette histoire de viol de Marie Simone, cette jeune femme camerounaise qui donc est violée 8 fois par 8 hommes à la suite, menacée par des chiens dans un quartier populaire et qui ensuite est à nouveau, une fois qu'elle porte plainte, est à nouveau menacée par ces gens-là qui se sentent suffisamment en sécurité pour aller la menacer chez elle. Après cette histoire qui a été très médiatisée parce que notamment l'hôpital l'a renvoyée, parce que la gendarmerie n'a pas voulu prendre la plainte, beaucoup de gens se sont indignés. On dit que c'était horrible et qu'il était impensable de laisser une femme comme ça dans la détresse. Est-ce que c'est grâce à elle qu'on peut aujourd'hui entendre la détresse d'une femme algérienne qui aurait été violée?
Absolument, absolument, j'en suis convaincue. Il est pour moi indispensable que grâce aux migrants subsahariens qui sont en Algérie et qui vivent des violences que les Algériens eux-mêmes vivent, mais qu'ils laissent plus ou moins dans les sphères privées et donc ne font pas trop de bruit autour, ou alors que la société s'habitue et du coup ne réagit plus, eux, ils sont là pour nous réveiller et nous montrer à quel point une femme qui se fait violenter, femme migrante ou algérienne, qu'elle aille déposer plainte au commissariat du coin. Elle aura exactement le même accueil. En plus, la femme migrante aura droit à tout un tas de commentaires par rapport à sa tenue, ou par rapport à sa religion, ou par rapport à l'absence de papier. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Elle va être accueillie par des messieurs, voire des femmes, qui vont essayer de la dissuader et lui dire que c'est pas grave. Alors un coup, c'est pas grave, voilà. Puis le deuxième, c'est encore moins grave, etc. Et puis on s'habitue. Parce que finalement, on va se plaindre auprès de qui? Le commissaire qui va nous dire « rentre chez toi, c'est plus sage, t'iras où sinon, etc. » Donc, si nous faisons ce premier pas juste de nous laisser interpeller par les réalités des migrants subsahariens en Algérie, je pense que nous aurons la capacité de défendre nos propres droits en tant que citoyens. Juste le respect de chacun. C'est tout. Dans les limites d'une loi qui est tout à fait correcte et tout à fait respectueuse.
Est-ce que l'Algérie a quelque chose à gagner à la présence de ces hommes et de ces femmes?
Juste en observant, il y a très peu de jeunes gens, de jeunes Algériens qui acceptent de travailler dans les champs, qui acceptent de travailler dans le bâtiment. Donc déjà, rien que là, nous avons besoin des migrants subsahariens. Mais aussi peut-être nous amener à réfléchir et à repenser Algériens égale Africains.
Reportage signé Leïla Berato, à la réalisation Romain Dubrac. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons de l'accès aux services essentiels en Afrique. Électricité, eau, assainissement. Les citoyens doivent-ils s'impliquer pour améliorer les services défaillants des États? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
C'était 7 milliards de voisins avec le CESAG, l'institution de formation en management sous tutelle de la BCEAO.